Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussy.
Il est 9h05, bonjour à tous et bon réveil sur RMC, les grandes gueules du sport comme tous les week-ends jusqu'à midi. Bonnes vacances à tous si vous avez la chance d'être en repos ou sur le trajet et bon courage à tous ceux qui travaillent éventuellement en ce dimanche. On est peut-être les seuls, c'est pas impossible, mais on vous accompagne toute la matinée. Nos GG aussi sont fidèles au poste, comme tous les week-ends pendant 3 heures. Et il n'a sans doute pas assez d'armoires chez lui pour ranger toutes les médailles qu'il a remportées pendant son illustre carrière. Mais heureusement pour nous, il a encore un peu de temps à nous accorder pour être dans les GG ce matin. Le judogi est bien ajusté. David Douillet est avec nous. Salut David.
Comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça va.
Oh là, c'est un petit ça va pour un dimanche matin, ça, David. J'espère que tu es en forme. Hein.
Oui, je suis en forme.
Quand parfait. Lui, je suis persuadé qu'il n'a pas peur ni de la taille, ni du talent, ni du palmarès de David Douillet, et encore moins de ses avis tranchés, parce que lui aussi a des arguments à faire valoir. Je vais évidemment parler de Fred Weiss. Salut, Fred.
Bonjour.
Oh, la
apparemment, on l'a fait en ASMR l'émission avec David nous. Douillet qui n'a pas de voix. Je me suis dit que peut-être pour ne pas réveiller les auditeurs.
Il faut qu'il se chauffe.
C'est un diesel.
Exactement.
C'est David Diesel et pas David Douillet, en fait.
Ça va être bien cette émission, je sens. Elle, en revanche, n'a pas tout misé sur la taille, mais elle n'en a pas besoin. Son agilité sur le court n'a d'égal que de son adresse avec les mots et les punchlines. Sarah Pitkowski complète les GG ce matin. Salut Sarah.
Bonjour à tous. Merci pour la présentation, Flora.
Toujours un plaisir.
Je te glisserai des cadeaux après. Hein.
C'est vrai. C'est gratuitement. Tout ça est fait évidemment dans les règles de l'art. Ne me regarde pas comme ça, Frédéric. Tout
ça,
est gratuit.
Ça commence mal cette émission.
Il y en a qui t'appellent Frédéric.
Ma maman, quand elle est fâchée, oui.
Ouais.
Et moi, parce que je sais que ça l'agace.
Ouais.
Je sais que ça l'énerve. Donc, du coup, généralement, quand je dis Frédéric, c'est qu'on n'est pas sur.
On n'est pas bien.
Ouais. On n'est pas bien. C'est ce qui va se passer quelque chose. Voilà la fine équipe qui va vous accompagner pendant 3 heures jusqu'à midi sur AMC. On compte aussi sur vous pour nous accompagner au 3216 et sur WhatsApp au 0612 424 424. On attend vos petits messages tout au long de l'émission. On vous attend aussi sur X pour voter pour le sondage du jour. À mi-chemin entre Paris 2024 et Los Angeles 2028, les résultats actuels sont-ils tout ce qui importe pour les athlètes? Ce sera le débat dans le ring des GG tout à l'heure à 10h. Le dossier aussi des GG, Léon Marchand prend-il un risque en participant au championnat d'Europe à Paris dès demain alors qu'il est toujours un peu blessé? Mais avant cela, on va parler du PSG dans quelques instants avec 2 titres à aller chercher en une semaine entre la Super Coupe d'Europe et le Trophée des Champions. Luis Enrique doit-il déjà faire rejouer les mondialistes? Sans oublier le vestiaire, comment nos GG ont-ils accepté leurs limites? Comment fait-on quand on se rend compte qu'on n'est plus au niveau? Et puis sur le buzzer, on fera le bilan de ces Tours de France femmes et hommes. Et puis tout ce week-end, dans les grandes gueules du sport, à l'occasion du Tour de France femmes, Basic Fit, partenaire fitness officiel du Tour de France femmes avec Zwift, vous offre 1 an d'abonnement pour vous entraîner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plus de 300 clubs en France. Pour remporter cet abonnement Basic Fit, vous envoyez sport, S-P-O-R-T, au 732-16. Le football reprend petit à petit ses droits et avant le retour de la Ligue 1 le 21 août prochain, les clubs continuent de se préparer avec des enjeux divers. Et quand on est le Paris Saint-Germain, forcément très tôt dans la saison, un trophée est déjà en jeu, voire deux. Parce que la dernière fois qu'on a vu les Parisiens, ils soulevaient une Ligue des Champions face à Arsenal.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Les Parisiens prêts pour le coup d'envoi de cette rencontre. La deuxième finale de Ligue des Champions de suite. Declan Rice qui va arriver dans la surface de réparation du PSG. Rice face à sa faute de la flappe. Frappe, but! Ousmane Dembélé a pris sa course d'élan. Il a posé son ballon. Raya est sur la ligne. Monsieur Cyber a sifflé. Dembélé qui frappe. Séance de tir au but. Le vainqueur de cette édition de la Ligue des Champions. Coup de sifflet de Monsieur Cyber. C'est parti pour Beraldo. Dedans, bien sûr. C'est la balle de Ligue des Champions. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Ou si Gabriel tire à côté, c'est gagné. La course d'élan, c'est parti pour Gabriel. Oh, c'est gagné. Oh, Paris remporte la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive.
Le Paris Saint-Germain qui va encore une fois viser cette saison un 15e titre de champion de France et surtout, pourquoi pas, réaliser l'improbable triplé consécutif en Ligue des Champions, mais dans une saison post-Coupe du Monde. Eh bien, les doutes sont déjà permis. Valentin Jamin nous a rejoint. Salut Valentin.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Valentin.
Bonjour Frédéric. Bonjour Sarah.
C'est fini maintenant. Tout le monde va t'appeler
Frédéric.
On m'a dit
que tu appréciais.
Le PSG tenu en échec hier en match amical face à Manchester United, un partout. On a vu le retour quand même, Valentin, de certains mondialistes, avec notamment les Portugais. Clairement, tout le monde n'est pas encore prêt.
Non, tout le monde n'est pas encore prêt. On l'a vu sur la prestation, puisque donc à l'heure de jeu, c'était très attendu. João Neves, Vitinha, Nuno Mendes sont entrés en jeu et Marquinhos également, le capitaine brésilien. Sachant que les joueurs qui n'avaient pas participé à la Coupe du Monde, les Kvaratskhelia, Safonov et ceux qui avaient été éliminés tôt avaient déjà joué face à Mallorca. Mais dans le contenu, bien sûr, on n'est évidemment pas sur des joueurs qui sont à 100%. Et il ne faudra pas attendre une équipe à 100% mercredi lors de la Super Coupe d'Europe. Luis Enrique a annoncé par ailleurs attendre dès demain le retour d'autres internationaux à l'entraînement. On parle du Marocain Achraf Hakimi, de ceux qui sont allés loin à la Coupe du Monde, du champion du monde Fabian Ruiz et les Français, donc Dembélé, Doué, Barcola, Zaïre Emery, Lucas Hernandez et Lucas Digne. On attend d'ailleurs encore son officialisation. Ils doivent retrouver les séances collectives, donc à deux jours de cette Super Coupe d'Europe. Ça paraît très juste pour les voir jouer mercredi, même s'ils se sont préparés individuellement. Beaucoup d'entre eux, on nous dit, ils voudraient quand même être dans le groupe parce que il y a un titre à aller chercher, il y a une joie collective. Donc ce sera de la gestion pour Luis Enrique qui sera très précautionneux concernant les plages de repos, mais qui pourra donc quand même s'appuyer sur une ossature parce que tu parlais des Portugais, on a parlé de Marquinhos, donc on a aussi Safonov, Kvaratskhelia, Pacho qui eux sont clairement aptes à être titulaires. A priori les Portugais et le Brésilien pourraient aussi être titulaires parce qu'hier physiquement ça avait en tout cas l'air d'aller. Pour les autres, il faudra a priori patienter. Pour comparer, l'an dernier, Paris avait repris une semaine, mais tout le monde avait repris une semaine pile avant la Supercoupe. Et il avait aligné par contre une équipe type à l'époque.
Ouais, donc ça donne effectivement quelques indications, tu as raison de le dire. Merci beaucoup Valentin, tu restes évidemment avec nous pour les précisions. Les GG, du coup, cette question ce matin, avec deux titres à aller chercher en une semaine. Je vous rappelle la Supercoupe d'Europe mercredi face à Aston Villa et le Trophée des Champions dimanche face à Lens. Faut-il déjà faire rejouer tous les mondialistes pour cette folle semaine qui arrive ? Sarah.
Oui, pas tous, mais des mondialistes, oui.
Fred,
c'est ce qui est écrit dans la question.
Moi, je vais répondre à ce que m'a posé comme question Flora.
Terrible, erreur fatale.
Erreur fatale, tu n'aurais pas dû dire tout.
C'est ça. David.
Non, mais oui, bien sûr. Bien sûr, ce sont des athlètes, ils sont jeunes, il n'y a pas de problème.
Très bien. Alors, on va essayer de développer. Fred, tu étais le seul à répondre non, justement. On vous attend aussi au 32-16. Venez de participer avec nous, supporters parisiens, notamment. On attend votre avis. Il y a évidemment les titres à aller chercher, Fred, mais il y a aussi toute la saison à venir qui va être très longue.
Il y a une saison qui est extrêmement longue. Et effectivement, il faut faire le distinguo entre ceux qui sont arrêtés plutôt rapidement dans la Coupe du Monde et ceux qui vont arriver lundi. Quand on a deux jours de préparation pour un match, dans aucun sport collectif, même en aucun sport, tu fais deux jours d'entraînement et tu fais une compétition. Personne ne fait ça parce que il y a le principe de précaution. Une blessure musculaire serait extrêmement gênante sur la durée et ça pourrait compliquer le début de saison de Paris pour deux titres qui sont deux trophées qui sont pas forcément des trophées majeurs. Donc à mon avis,
j'ai peur que tu dises des trophées en carton.
Non, c'est pas des trophées.
C'est diplomatique de le dire.
Honnêtement,
un trophée est un trophée.
Okay. Mais il y a des trophées qui sont quand même plus importants. Je préfère gagner une Ligue des Champions qu'une Super Coupe, par exemple. Après, peut-être que toi non, Sarah, mais moi j'ai cette préférence.
Elle préfère gagner tous les trophées.
Donc à partir de là, je pense que effectivement, il va falloir gérer tout son effectif. Il va falloir gérer principalement ceux qui arrivent lundi, parce que les autres, Valentin l'a expliqué, seront plutôt aptes à jouer. Donc pourquoi ne pas les faire jouer? Il n'y a aucun problème par rapport à ça. La saison va être longue. Et moi, je pense surtout au cas d'Embélé. Dembélé, c'est quelqu'un qui a été surveillé comme l'huile sur le feu, comme le lait sur le feu d'ailleurs, c'est pas que l'huile, comme le lait sur le feu, pendant toute la saison dernière, parce que c'est quelqu'un quand même qui a tendance
depuis son arrivée
est coucouné parce qu'il a quand même cette tendance à se baisser. J'entends qu'il ait envie de jouer parce qu'encore une fois, c'est toujours plaisant de gagner un trophée. À un moment, il va falloir le surveiller. À un moment, il va falloir le gérer. Et je pense qu'on a plus de plaisir à le voir jouer à la fin de saison que là, en fait.
Ouais, Sarah, la nuance, elle était importante, évidemment. Oui. On peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Valentin le disait, il y a des semaines de reprise différentes pour tout le monde. Malgré tout, les Portugais, oui, ils ont joué 40 minutes face à Manchester United.
À peine, exactement.
C'est pas non plus énorme. Le match, il est mercredi, hein, ça arrive.
Oui, il est mercredi. Moi, Valentin, j'ai une question. Dembélé, je crois qu'il est revenu à l'entraînement.
Non, il n'est pas encore revenu à l'entraînement collectif.
Ils
sont attendus demain. Mais ils s'entraînent individuellement tous. Hein. Ils ont un programme depuis plusieurs jours. Je pense que vous connaissez ça.
Valentin, j'ai envie de te dire, je suis peut-être le seul à t'écouter. Tu vois, Sarah n'écoutait pas ce que tu disais.
Non, Sarah s'interroge, elle a le droit.
Non, mais parce que j'ai eu une information de la rédaction qui disait que Dembélé était revenu à l'entraînement.
Comme quoi, on n'est pas
discutable à la rédaction. Donc, je demandais une précision.
La rédaction, c'est Valentin.
Frédéric. C'est dingue, ça. Oui, alors, moi, j'ai voulu faire une comparaison avec l'année dernière où il y a eu une saison avec cette première Coupe du Monde des clubs, qui a été donc aussi qui a empiété sur les vacances des
qui les a fait revenir très très tôt effectivement.
Et qui les a fait revenir très très tôt à quelques jours près. On est un peu sur le même modèle que l'année dernière. Moi, je pense qu'effectivement, il faut faire jouer des mondialistes, mais il faut les faire jouer crescendo. C'est un petit peu ce que fait Luis Enrique, c'est-à-dire qu'il a fait jouer finalement les mondialistes qui ont terminé un peu plus tôt, donc les Portugais, Brésiliens, ils ont joué 40 minutes, mais pourquoi pas jouer une mi-temps mercredi pour le trophée des champions.
Est-ce que tu les ferais jouer d'entrée, par exemple? C'est ça aussi la question.
Valentin nous parlait de la
composition de l'année dernière où finalement ils étaient tous là.
Et si le score est fleuve, tu les fais sortir. Après,
mais imagine dans le scénario ça ne l'est pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire tu prends le risque aussi de les faire
rentrer,
jouer.
Mais je les fais rentrer.
Donc tu les mets pas titulaires.
Mais tu les mets pas titulaires tout de suite, oui. Mais t'as quand même Kvara, t'as quand même Safonov qui va être là.
Safonov qui, Valentin, tu vas nous confirmer, mais on entendra David aussi après, qui a vraiment pas été rassurant sur les matchs qu'il a disputés.
Dire, et c'est peut-être un problème pour Luis Enrique. On n'a pas de remplaçant qui nous a fait dire sur les deux derniers matchs, lui c'est sûr il peut jouer. Enfin, il y a eu Beraldo et on a vu Mayulu. Ibrahim Mbaye a été plutôt bon, mais il a marqué. Mais tu as raison, Safonov qui n'est pas un remplaçant, mais globalement on n'a pas eu de joueurs archi rassurants eux ils peuvent remplacer forcément un cadre.
Et Akliouche, même si
Akliouche peut jouer.
Akliouche peut jouer. Il est arrivé cette semaine.
Il a repris l'entraînement vendredi. Hier il n'était pas dans le groupe. En revanche, lui il aura quasiment une semaine, donc titulaire peut-être un peu juste, mais tu as raison, il y a de bonnes chances d'être convoqué.
Il a 4-5, j'ai envie de dire qu'il a 4-5, c'est pas des jokers, mais en fait il a 4-5 joueurs prêts à rentrer sur le terrain dès mercredi. Donc, et il peut peut-être faire la même chose avec les autres mondialistes qui reviennent, puisque le deuxième match c'est quand c'est dimanche.
C'est dimanche.
Donc en fait, j'ai envie de dire qu'il peut le faire crescendo. Donc moi, à ta question, il faut les faire rejouer. Oui, mais alors pas 90 minutes, on est bien d'accord. Mais il faut les faire rejouer.
Non mais.
Ouais, vas-y, David.
Enfin, moi, je trouve que la question, elle est. Je dirais pas qu'elle est inutile, mais il nous a prouvé, Luis Enrique, que c'était un des meilleurs au monde, un des meilleurs entraîneurs au monde, tout court, et un des meilleurs, justement, pour gérer son effectif. La preuve, il a gagné deux Ligues des Champions. Et pour moi, il n'y a même pas à se poser de questions, il n'y a même pas à avoir peur de quoi que ce soit. Il va être capable, et il est capable, de manière très chirurgicale, de savoir où en sont ses joueurs, l'état de fatigue, leur âge, les blessures, le machin, le truc, etc., etc. Et pour lui, j'en suis certain, c'est la meilleure préparation qu'il puisse avoir pour entamer la saison.
Dans ces conditions-là, comme le disait
Sarah, bien sûr, prendre tous les curseurs et jauger et préparer, parce que ces compétitions-là, c'est des compétitions de préparation. C'est mieux que des entraînements, c'est formidable d'avoir ces compétitions-là.
Mais ça
là,
veut dire
maintenant.
Tu as aussi une intensité qui est autre, David, et des joueurs qui sont pas encore complètement à terme dans leur prépa peuvent se blesser aussi.
L'intensité, Sarah le disait parfaitement bien, l'intensité tu la gères toi-même, c'est toi qui as les manettes, il est derrière sa table de mixage et il va prendre ses touches comme ça, mettre plus haut, plus bas, etc. Il peut faire sortir, rentrer, etc.
C'est assez facile pour
David. L'intensité d'Aston Villa sera pas la même.
C'est ça.
Déjà, c'est un club anglais, donc ça joue solide et ils ont repris bien avant le PSG. On est d'accord.
Mais ça sera un problème. Ça sera un problème si c'était un objectif. Ça ne l'est pas.
Je pense que c'est un objectif la Super Coupe d'Europe.
Moi aussi, je suis sûr que non. Moi, je pense qu'ils veulent tout gagner. Ce PSG-là veut tout rafler.
Premier match amical d'Aston Villa, 21 juillet. Reprise du PSG à l'entraînement, 27 juillet.
Donc ils ont beaucoup
d'avance.
Et puis il faut aussi
ils ont joué le Bayern Munich.
Alors attention, après ils n'étaient pas au complet, Coupe du Monde, hein, Emiliano Martinez par exemple, comme Paris.
Mais il faut aussi savoir que dans les préparations aujourd'hui, il y a toutes des données, alors on ne prend pas que ça en compte, mais toutes les données physiques avec les capteurs, on sait exactement les états de fatigue, les états de récupération.
C'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif dans lequel il y a des impacts, il y a des contacts et tu peux pas tout gérer.
C'est pour ça que je te dis, ne pas tout prendre en compte, mais tu sais à peu près où se trouve l'état de fatigue ou l'état de récupération, l'état de forme des joueurs. Aujourd'hui, tu as plein de données techniques qui permettent aussi de savoir, et comme on disait David, d'être un peu plus chirurgical plutôt que de la sensation interne du joueur.
Si comme le dit Valentin, l'objectif pour le Paris Saint-Germain est de remporter ce trophée, Luis Enrique, il a une équation qui est simple, c'est-à-dire qu'il veut gagner et en même temps sur le papier, il n'a pas forcément l'équipe à dispo pour non plus. Donc comment il fait
Quand tu regardes les matchs, Neves, l'impact des
remplaçants face à Manchester United,
Safonov,
Valentin le dira, l'impact n'a pas été énorme à l'entrée des mondialistes.
Non, après les matchs de préparation.
Les réflexes.
Après, c'est pareil, normal. Je pense que vous savez switcher. Quand tu rentres dans une compétition qui a un trophée au bout, tu n'as pas la même attitude que quand tu reprends à Göteborg en Suède.
Oui, alors je vais un petit peu minimiser ce que tu dis. Oui, mais réellement, pour la plupart des sportifs, ce genre de match, ça reste des matchs de préparation. Alors oui, il y a un trophée au bout. Bah, oui. Et évidemment, tu te motives un petit peu plus parce que justement, quand tu es le PSG, tu as envie de tout gagner. Mais tu n'es pas sur une finale de Ligue des Champions dans la motivation. Donc c'est difficile de switcher complètement, je veux dire, je fais abstraction du fait que là c'est des matchs amicaux, ça reste un match amical XXXL.
Non mais Valentin, tu viens de dire quelque chose, tu as dit aussi quelque chose, est-ce que tu le sais ou est-ce que tu l'as lu sur le fait que les Portugais et Brésiliens, en tout cas ceux qui sont rentrés sur ce match amical, ils veulent jouer.
Mais même les, alors même, ça c'est sûr. Mais on nous dit même que certains Français aimeraient être dans le groupe. Alors de là, évidemment pas être titulaire, mais plus je pense pour le côté.
Pour avoir une ligne, être là.
Mais ils veulent jouer. Vitinha, je pense par exemple sera titulaire. Oui, voilà, exactement.
Ces joueurs-là ont développé avec Luis Enrique une envie de tout gagner et d'être là. Quand il y a un trophée au bout.
Mais donc justement, c'est là que l'entraîneur doit modérer tout le monde et leur expliquer que oui, vous voulez tout gagner, oui, on veut tout gagner. Et lui, c'est Enrique. Mais pourtant, je suis d'accord avec toi, David, tu l'as expliqué. Enrique, c'est un coach exceptionnel qui sait gérer ses joueurs. Il l'a prouvé plusieurs fois. Mm-hmm. Et je suis complètement d'accord avec toi. Donc je pense que lui, s'il va voir Dembélé en lui expliquant, oui, t'as envie de jouer, mais je pense pas que tu joues parce que j'ai envie de te gérer toute l'année. Dembélé va le comprendre sans aucun problème. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça et je pense qu'il ne va pas les faire jouer, au moins sur le premier match.
Mais le sujet, Fred, ce n'est pas Dembélé.
Non, mais pas que, mais d'autres Français aussi.
David.
Moi, je pense que pour le PSG, ce ne sont pas des objectifs. Voilà. Et que si le PSG perd ce week-end, ce n'est pas grave.
Non. Enfin,
voilà, c'est tout. Et ce ne sera, sera pas une catastrophe. Voilà. Quand on a envie de tout gagner, le fait de perdre, ça deviendra une catastrophe. Ce n'est pas du tout. Ça ne le sera pas du tout. Donc je suis certain que le PSG se focus sur la Ligue des Champions, point barre.
Donc, argument en ma faveur. Donc pourquoi faire jouer les mondialistes ? Justement, vu que c'est pas un objectif pour toi. Pourquoi
les faire jouer ? Il n'y a pas meilleure préparation que la compétition.
Oui, sauf que quand t'as une petite préparation en amont, là, si t'as deux jours et que tu te retrouves à jouer un match important contre une équipe qui est solide, qui a pris avant toi, bah tu prends un risque musculaire et on sait combien ça peut être long d'une blessure musculaire.
Alors justement, on va faire la comparaison puisque l'année dernière le PSG avait déjà joué cette Super Coupe d'Europe face à Tottenham, Valentin, Tottenham qui avait repris aussi plus tôt que les Parisiens, ça avait été un match compliqué au scénario, un petit peu improbable but, pour Paris.
Non, ils avaient gagné au tir au but. Paris avait repris le 6 août et Tottenham avait repris quasiment un mois avant. Et ça s'était quand même vu sur le match où Paris est longtemps mené.
C'est
Lee et Ramos qui sauvent Paris à la dernière minute. Ça gagne au tir au but. On avait senti
des joueurs qui sont plus là aujourd'hui.
En plus, voilà, que physiquement, ça avait été vraiment difficile parce que Tottenham n'avait pas fait la fameuse Coupe du Monde des clubs. Mais encore une fois, il avait aligné une équipe type une semaine seulement après la reprise.
Et donc on est exactement dans la même physionomie.
Oui, mais
une
semaine.
On n'est pas à une semaine de leur prise, on est à deux jours pour les Français.
Il n'y a pas les Français, il n'y a pas Ruiz, ni Hakimi.
Mais je pense qu'on ne met pas le curseur. On parle pas, en fait, je crois qu'on n'utilise pas le même mot des mondialistes. on prend pas les mêmes mondialistes, on les met même pas au même niveau. Moi, je vous parle de ceux qui ont déjà repris, en fait.
Ah, mais ceux qui ont déjà repris, par
d'accord.
définition, il faut
on
les faire
jouer. On est bien d'accord que Hakimi ou Dembélé qui vont jouer lundi, on va pas les faire jouer mercredi. Enfin, c'est
et
ça
dimanche,
tout le sens.
Peux potentiellement te dire que Sarah, tu fais jouer dimanche.
Dimanche, si, pourquoi pas.
Dimanche, c'est possible.
Dimanche, c'est plus possible.
Si tu fais une préparation personnelle,
ça, qu'est-ce que ça vaut, justement, je me disais, quand on vous envoie des programmes l'été, qu'est-ce que ça vaut en réalité?
Ça vaut qu'en fait, tu maintiens ton état de forme, et puis c'est pas des joueurs qui viennent d'arriver au club. Ça fait 3 ans qu'ils jouent ensemble. Ils ont des automatismes où je veux dire, ça, t'as pas besoin de les répéter 150 fois. Ça fait 3 ans qu'ils jouent ensemble. Les automatismes, ils les ont. Si Dembélé, si Lucas Digne, si Hakimi, ils sont en forme, dans le sens, ils ont un poids de forme, en termes de j'ai envie de dire plutôt, c'est le poids.
Ouais, mais Digne, par exemple, il n'a pas ces automatismes.
Mais les autres, enfin, je veux dire, si
tu peux pas comparer ce que tu fais individuellement et ce que tu fais collectivement. Il n'y a aucune comparaison possible. Oui, tu vas arriver à peu près en forme,
mais
il y a des appuis, il y a des contacts, il y a des choses que tu peux pas simuler à un entraînement individuel.
Ils ont pas arrêté de jouer il y a 2 mois. Les contacts, ils les ont eu en Coupe du Monde.
3 semaines globalement.
Ben, trois semaines, c'est long. Hein. C'est que théoriquement, tu commences à perdre au bout de 2 jours. Réellement, c'est la théorie des sportifs
de
et des perdre les automatismes,
Mais je ne crois pas une seconde sur les automatismes.
Alors c'est pas de ma faute,
j'y crois pas une seconde sur les études, automatismes. En fait. Ils
mais
jouent ensemble.
N'y crois pas, mais c'est juste des études en fait là, c'est pas moi. Et donc
non mais des automatismes, des études Fred sur des automatismes, sérieux.
Mais d'où sur le comportement Fred. Mais en fait c'est l'étude.
C'est signé par qui?
Si le mec il est sur le tapis, il a sa bonne VO2, il a sa bonne musculature, il est au bon poids. Surtout dans la tête, il a envie.
On voit que vous ne faites pas un sport collectif. Dans un sport collectif, il y a plein de trucs qui font que la proprioception, tu ne peux pas la travailler tout seul autant que quand tu la travailles avec contact avec les autres, par exemple. Et voilà, c'est juste à comparer entre vos sports, qui sont des sports individuels, et des sports où tu as plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte.
Tu crois que les Portugais et le Brésilien, Marquinhos, ils ont repris, ils ont fait tout de suite des contacts. Ils ont fait des petits exercices, je suppose, de toucher de balle.
Sarah, en fait, ce sont des professionnels, j'ai du mal à répondre parce que tu parles dans tous les sens. À aucun moment je parle de l'entraînement, je parle des matchs. Tu peux pas comparer ce que tu fais des touches de balle à l'entraînement avec un match, avec une intensité, avec quelqu'un qui est plus préparé que toi et qui a plus de vécu depuis le début de saison. Tu peux pas comparer, en fait. Tu peux pas dire, je me suis bien préparé tout seul, d'un seul coup j'ai joué contre Aston Villa. Enfin, c'est pas possible, en fait. À un moment, il faut du temps, il faut se préparer. C'est pour ça qu'il y a une préparation. Et en général, une préparation, c'est quasiment un mois, en fait.
On va continuer évidemment de parler de cette préparation du Paris Saint-Germain. Vous restez bien avec nous. Il y a beaucoup de messages dans le WhatsApp d'RMC. 06 12 424 424. Stéphane nous dit que tu es excellente, Sarah. Voilà, ça peut aller dans ton sens. Et qu'il t'aime. Je ne sais pas si Stéphane, quelqu'un de ton entourage.
Peut-être.
On nous dit aussi que c'est, et tu nous confirmeras peut-être, Valentin, mais qu'il y a aussi des soucis d'effectifs du côté d'Aston Villa, qui n'est pas forcément non plus au complet. Et puis on nous parle aussi de la différence des deux trophées à aller chercher pour le PSG entre la Supercoupe d'Europe, qui n'a pas souvent été gagnée non plus par les clubs français, avec le trophée des champions. Le PSG en a quand même ramassé un petit paquet, à voir si ça peut changer effectivement les objectifs pour les Parisiens. Il est 9h28 sur RMC, ne bougez pas, les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants. On continue de parler du Paris Saint-Germain et puis on zappera aussi un petit peu après avec les infos de la semaine. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi.
Il est 9h30, on est de retour dans les grandes gueules du sport sur RMC. On vous accompagne jusqu'à midi avec Sarah Pitkowski, Fred Weiss et David Douillet. On vous attend aussi au 32-16 pour venir participer avec nous et débattre avec les GG, très affûtés déjà ce matin dès le réveil. La une des GG, ça continue autour du Paris Saint-Germain et de ses 2 titres à aller chercher, la Supercoupe d'Europe mercredi et le Trophée des Champions dimanche. La question aussi du Mercato va peut-être arriver sur le tapis dans quelques instants. Mais on a Mehdi, supporter parisien, qui est avec nous au 32-16. Salut Mehdi.
Salut l'équipe.
Bonjour Mehdi. Merci d'être avec nous. Alors déjà, toi en tant que supporter parisien, c'est intéressant de savoir l'importance que tu donnes à ces 2 trophées qui arrivent la semaine prochaine. Est-ce que ça va compter ou non pour toi dans la saison parisienne?
Un trophée, ça reste un trophée, on va pas se mentir. C'est comme une finale. Donc on veut absolument la gagner, hein. Même si on vous dit non, on est concentré sur la Ligue des Champions pour faire une 3e réédition. Non, en fait, un trophée, on le veut. Donc, bien évidemment que ça.
Les deux sont au même niveau pour toi en tant que supporter ?
Bah, on aime tout rafler en fait. On veut faire une saison avec en prenant tous les trophées. On veut faire une saison encore inédite. Donc bien évidemment que ça va compter. Même si au fond de nous, supporters parisiens, voilà, la concentration, elle restera sur la Ligue des Champions, bien évidemment.
Et est-ce que du coup, ça veut dire que tu ferais jouer toi tous les mondialistes qui sont à dispo pour ces matchs-là, pour avoir l'équipe la meilleure possible sur le papier ?
Alors moi, je vous ai écouté tout à l'heure et je suis très d'accord avec Fred en disant que forcément l'organisme ne sera pas optimum comme nous avons pu les avoir vus jouer pendant la Coupe du Monde. Dès qu'on arrête ne serait-ce que deux semaines, le corps ne répond plus. C'est plus du tout. Enfin, il va répondre, c'est une certitude, mais pas
pas de la même façon. Ouais.
Voilà, et bien évidemment. Alors, est-ce que on va les faire jouer sachant que on peut prendre un risque de blessure sur le reste de la saison? Moi, je suis pas certain, honnêtement. Je vais préférer les préserver et puis jouer avec l'équipe qu'on a mis hier, peut-être avec Manchester United. Et puis leur donner du temps de jeu, mais 10-15 minutes à la fin de match, plutôt que de les faire jouer titulaires au risque de les voir blesser sur
donc ça veut dire que le trophée est pas si important que ça, parce que si tu veux aller gagner le trophée, tu mets ta meilleure équipe à dispo. Mais,
oui, mais à quel risque?
On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière.
C'est important, mais peut-être pas plus que le reste de la saison, c'est ce que tu es en train de me dire.
Et c'est la raison pour laquelle, justement, on va essayer de tirer le meilleur des joueurs qui sont en forme actuellement.
Mais justement, ça ne met pas en avant le fait qu'il y a un manque de profondeur de banc du côté du PSG, finalement, parce qu'on est en train de polémiquer pour savoir est-ce qu'on est obligé de faire jouer les mondialistes. Est-ce que ça veut dire que, finalement, ce PSG, pour l'instant, Et a peut-être un banc un petit peu
défaillant. Non, ou alors ça veut peut-être juste tout simplement dire qu'il y a beaucoup d'internationaux qui sont allés loin dans cette Coupe du Monde, et donc il y a moins de joueurs
Je voulais l'opinion de Mehdi par rapport à ça. Est-ce qu'il considère ça, ou est-ce qu'il dit oui, effectivement, que c'est normal, et avec tous ces internationaux, il n'y a pas de problème?
Moi, je pense que honnêtement, on a les meilleurs joueurs. On l'a démontré sur deux années consécutives, parce qu'on a pris deux fois la Ligue des Champions. Donc on ne peut pas faire mieux. Mais pour le moment, effectivement, de toute façon, toutes les grosses équipes qui ont des joueurs internationaux sont les meilleures équipes, parce qu'ils ont des joueurs internationaux qui ont participé à la Coupe du Monde. Ça, pour moi, c'est une question de logique. Par contre, après, il faut pas oublier une chose, c'est que il y a deux ans, on a eu la Coupe du Monde des clubs. L'année dernière, on a eu la Coupe du Monde. Donc en fait, ça fait deux ans qu'on n'a pas de préparation et deux ans qu'on est habitué à jouer ce genre de match sans réellement l'équipe type qu'on devrait avoir et qui aurait dû reprendre il y a déjà deux ou trois semaines.
David.
Mais c'est normal. Enfin, chacun sait, et Sarah et Fred le savent parfaitement, tu peux pas être en forme toute l'année. Et c'est le drame du sport en général aujourd'hui, que ce soit le rugby, le foot, le basket, etc., etc., le tennis. Maintenant, il y a tellement de championnats, il y a tellement d'événements, il y a tellement de sollicitations en termes de compétition, que si tu n'es pas un vrai savant de la gestion du physique et du mental de tes joueurs, tu n'es pas un bon entraîneur. Et ce serait une faute professionnelle que de trop impliquer les joueurs majeurs du PSG sur ce type de compétition. Et il va les faire monter en gamme petit à petit. Et c'est formidable pour lui que d'avoir cet outil-là. Et ça ne sert qu'à ça. Et je suis sûr et certain que ce n'est pas, et je le répète et je l'affirme, même s'ils veulent tout gagner, ce n'est pas un objectif. Voilà. L'objectif, le vrai objectif, c'est la Ligue des Champions. Et tout ça va monter graduellement en puissance. Et c'est normal.
T'as raison,
ils peuvent pas être en forme toute l'année. C'est impossible.
T'as raison de faire le distinguo effectivement entre l'envie de gagner, mais l'objectif ultime dans cette saison du Paris Saint-Germain.
Envie de gagner, sans prendre de risque, et c'est pour ça encore une fois. Je pense qu'il vaut mieux protéger certains joueurs.
En termes de chiffres, en termes de noms, aujourd'hui, le PSG a sa défense et son milieu. Ils ont après la moitié de son effectif qui est disponible. Mais on parle des Français surtout qui ne sont pas de retour.
Oui, les mondialistes.
Fabien Ruiz.
Donc au final, l'équipe, elle est quand même très compétitive. Il y a Kvara qui est là, il y a Akliouche qui peut éventuellement jouer. Enfin, je veux dire, il y a.
Sachant qu'il ne connaît pas l'équipe, Akliouche aussi. C'est un petit peu toujours l'indécision
en termes
autour
de talent
d'un joueur.
Tu peux quand même aligner une sacrée équipe.
Non, tu peux pas aligner une belle équipe, mais toi-même, pour l'instant, on n'a pas vu des remplaçants capables de titiller. évolué.
Tu parlais de la profondeur de voilà, banc. Bon, ça a dû. Là, il y a Berardo.
Sur certains postes, principalement. Ouais. En attaque, j'imagine que c'est.
La question, ça va être qui va jouer, par exemple, numéro 9. Il avait mis une Jean Toul le premier match. Hier, il a mis un jeune qui s'appelle Adam Ayari. Mais clairement, il n'y a pas là. Il n'y a pas de remplaçant attitré au poste de numéro 9.
C'est là que je voulais en venir. En fait, effectivement, il y a une profondeur de banc sur certains postes. Et ça, on le sait depuis le début. Mais il y a des postes qui sont démunis pendant ce match.
Mais en fait, on est d'accord. On est d'accord de dire que ceux qui ont repris il y a une semaine, on peut décemment les mettre sur le terrain, soit en titulaire, soit on les fait rentrer, et que ceux qui arrivent lundi à l'entraînement, on est tous d'accord qu'on va pas les aligner, enfin qu'il faut pas les aligner mercredi.
Vous êtes tous d'accord avec moi, ça me va.
J'ai répondu à la question.
Faut-il faire rejouer les mondialistes cette semaine? Non.
Bah si, parce qu'il y a une partie des mondialistes qu'on a fait jouer.
Mais non, j'ai répondu à la question.
Si vous voulez, je prends toute la responsabilité.
C'est Flora.
Mais David a raison sur une chose. Tu joues sur les mots, Frédéric. C'est un petit peu ton credo. Tous
c'est
les
un filou, Madame Moussi. Oui. Les mots ont un sens en français.
Bien évidemment. Mais là, on a respecté le sens de tous les mots, je crois. Il n'y a pas de problème. On va peut-être demander l'avis de Mehdi sur cet effectif parisien. Parce qu'on le sait aussi, Mehdi, les saisons sont très longues au PSG. C'est un petit peu le problème aussi. C'est pour ça que parfois on se dit il vaut mieux économiser un petit peu les effectifs quand il y a des compétitions qui reprennent très tôt comme ça. Est-ce que sur la longueur de la saison, sachant qu'on vient d'enchaîner deux grosses saisons au PSG, t'es un petit peu inquiet sur la profondeur de banc?
Non, moi je suis pas inquiet. En fait, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est cette compétition qu'ils mettent à chaque fois en début de saison. Et c'est pertinemment que les clubs ne seront pas prêts, que les joueurs ont le droit surtout à avoir des vacances, surtout avec une Coupe du Monde et une Coupe du Monde des clubs sur deux ans. Donc moi
après le souci c'est que la saison de Ligue 1 reprend le 21 août, tu vas pas mettre la Super Coupe d'Europe au milieu de la saison de Ligue 1, tu vois, c'est toujours le problème.
Bah, on peut la mettre au mois de décembre, ouais, moi, je suis désolé, les Anglais.
Ça veut dire que tu coupes la trêve des joueurs de Ligue 1, tu vois.
Bah bien évidemment, alors moi c'est sur on joue une compétition enfin deux compétitions. Moi je pense qu'on peut continuer à jouer comme les Anglais, et puis surtout pour les équipes qui jouent ce genre de compétition, parce qu'au final c'est pas on n'aura pas l'équipe type, donc c'est si on perd ou même si on gagne, on va pas se mentir, on dira ouais mais bon on a perdu parce qu'on avait pas l'équipe type, ouais. Et si on gagne on dira bah on a gagné parce que bon bah on a un super banc, alors que c'est pas vrai.
Oui, mais enfin, j'ai juste une question.
Attends,
David, vas-y.
Mehdi, t'es un fan du PSG, etc. Tu adores les voir jouer, évidemment. Mais est-ce que pour toi, il n'y a pas trop de compétition? La vraie question, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas trop de compétition? Est-ce que c'est pas exagéré? Est-ce que ce sport, à travers les masses financières qu'il génère, les organisateurs n'exagèrent-ils pas trop au détriment des joueurs? C'est ça la question.
Moi, David, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui est super important et qui va être problématique pour la suite. C'est ça. C'est les compétitions. C'est mettre des grosses équipes avec des gros joueurs de manière à ce qu'ils se confrontent plusieurs fois dans l'année, et c'est faire de l'audimat. On a vu avec le président de la FIFA qui a dit que maintenant il voulait passer à 64 équipes pour la Coupe du Monde. En fait. C'est ça, c'est ce qui va générer les téléspectateurs, c'est ce qui va générer de l'argent, c'est ce qui va, et au détriment très très probable des conditions physiques des joueurs.
Alors
et
peut-être
donc,
on va faire le point
à cette limite.
Oui, juste David sur le mercato du Paris Saint-Germain qui est évidemment pas terminé, Valentin, parce que ils ont déjà perdu quelques joueurs, il y a évidemment l'arrivée d'Akliouche, mais sinon on n'a pas beaucoup recruté.
Départ de Lee, départ de Ramos, donc les deux buteurs de la Supercoupe d'Europe la saison dernière, recrue de Marnès Akliouche. Bon, il y a un gardien qui est arrivé qui est tout jeune.
Qui a joué hier d'ailleurs.
Qui a joué hier un quart d'heure. Lucas Digne également va rejoindre le Paris Saint-Germain. Les pistes chaudes, on les avait évoquées, Zion Suzuki, mais c'est un gardien qu'on veut recruter à part, mais prêté, donc il ne sera pas dans l'effectif cette saison. Mika Götze, toujours l'ailier belge de l'Ajax Amsterdam, et la piste chaude, Fabrice Hawkins nous le révélait hier, c'est quand même Ferran Torres, le buteur en finale de la Coupe du Monde du Barça. Lui veut vraiment rejoindre le Paris Saint-Germain. Globalement,
il y a une offre qui a été faite.
Les clubs discutent
un petit peu.
Pour l'instant, il n'y a pas eu d'offre concrète envoyée par le PSG à Barcelone, mais ça va arriver. Et la piste qui s'est vraiment réchauffée ces dernières heures, et ça fera peut-être du bien justement en attaque pour la profondeur de banc, sachant qu'on rappelle que Mbaye et Barcola sont potentiellement partants. Ce sera des gros dossiers du côté du PSG.
Effectivement. Merci beaucoup Valentin pour ces précisions. Merci à Mehdi de nous avoir appelé ce matin, supporter parisien. Pour conclure, peut-être il y a Olivier dans le WhatsApp d'RMC qui nous dit oui, sur le papier, il y aura peut-être une belle équipe du côté du PSG, mais on parle aussi de forme physique. C'est évidemment toute la question autour de ce Paris Saint-Germain-là. On conclura ce débat sur
non,
ce
mais fais pas comme si t'avais
sujet.
Raison sur le débat, Fred.
Je n'ai pas dit un mot, Sarah. Je n'ai pas un mot. Tu as été obligé de le signaler, mais j'avais raison.
Si on était filmé, ton grand mouvement de bras ne sert à rien.
Mais si, tout le monde saurait que j'ai enfin, encore une fois, gagné.
Mais il n'y a pas de gagner ou perdre.
Mais
ce sont des avis
divergents. C'est très sympathique de discuter avec vous, mais vous avez très souvent tort.
9h41, les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants. On va se calmer. On va se calmer. Et on revient pour zapper un petit peu. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
9h44 sur RMC, les grandes gueules du sport, toujours au rendez-vous. On vous accompagne évidemment tous les week-ends de 9h à midi avec Sarah Pitkowski, David Douillet et Fred Weiss. On vous rappelle le WhatsApp qui est ouvert. Vous êtes très dynamique ce matin dans le WhatsApp. 06 12 424 424. Il est 9h44. On va zapper un petit peu dans les GG.
RMC.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Arthur Fils qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal où il défiera Rafael Nadal. On s'en fout ou on s'en fout pas, Fred?
Je ne m'en fous pas. Eric Salio.
Ah, c'est juste pour Eric Salio que tu t'en fous pas. David?
Je vais laisser Sarah sur ce coup-là.
Sarah?
Moi, je m'en fous pas.
Évidemment, tu voulais Eric Salio. Tu appelles Eric Salio, Eric Salio est là.
C'est comme le génie.
C'est pas fantastique.
Je voudrais 1 million de dollars.
Non, ça marche pas.
Ça marche pas. Okay.
Salut Eric!
Salut les grandes gueules, comment il va mon grand Fred?
Ben écoute, ça va pas très bien depuis hier, tu m'as mis le moral en berne et heureusement que Arthur Fils a fait une performance.
Il va te vendre un super quart de finale là, entre deux petits génies, entre Arthur Fils et Rafael Nadal. C'est la nouvelle génération aussi qui va s'opposer, Eric.
Ouais, il avait un match pas facile à gérer contre Cameron Norrie en pleine nuit. Et il s'en est sorti en 2-7, 6-2, 7-6 avec des points assez fabuleux. Et on a recueilli quelques mots de lui grâce à l'ATP. Donc je propose d'écouter y savourer cette qualif.
Un peu compliqué de finir le match. J'ai eu pas mal d'occasions, je jouais très très bien. Je me suis un peu fait une petite frayeur, mais très content de m'en sortir en 2-7. Voilà, contre un très bon adversaire. Et puis maintenant, un tirage. J'ai l'impression d'être vraiment à la maison. Je ressens vraiment le soutien. Ça pousse derrière moi. J'ai l'impression que tous les points, on les célèbre comme si j'avais gagné un match. Donc c'est vraiment cool.
C'est son quatrième quart de finale en Masters 1000 cette année. Ça commence à chiffrer. J'ai regardé le classement de la race. C'est le classement donc sur la saison 2026. Il est 12e et il va jouer un match hyper important lundi contre Rafael Nadal parce que s'il gagne, eh bien, il peut être 6 ou 7 à la race. Donc, c'est-à-dire qu'il serait masterisable, donc qualifié pour le Master de Turin. Donc, c'est un match important. Mais comme il l'a dit, Nadal, c'est l'homme en forme du moment. Donc, ça va être un gros match. Ce sera sûrement en night session. Donc, faudra que Fred il se lève vers 1h du matin pour regarder le match.
Moi, j'ai l'habitude, tu sais, avec la NBA.
Sarah, c'est vrai que sur le papier, c'est très alléchant. On parlait hier de l'attractivité du tennis masculin aujourd'hui.
On a besoin.
Mais celle-là, elle est pas mal quand
même. Ouais, on a besoin de ce genre de match et je pense que la directrice du tournoi elle est contente aussi effectivement puisqu'on est sur on va l'appeler la next gen de ces joueurs et on a besoin de voir effectivement ces confrontations entre les deux qui est je veux dire la marche juste celle d'en dessous de Sinner, Alcaraz, Zverev, on va mettre Ogier Aliassime en tampon entre tout ça donc oui c'est intéressant et puis de revoir Arthur Fils en forme. On sait qu'on est toujours un petit peu prudent sur l'état de son dos. Donc, tout ce genre de match et de victoire, c'est bon. Après,
il a eu un gros match depuis le début parce qu'on a l'impression que Nadal, c'est vraiment un truc extrêmement difficile. Mais est-ce qu'il a eu un vrai gros match?
J'ai pas le tableau sous le nez.
Qu'est-ce que tu sous-entends, Fred? Qu'est-ce que tu sous-entends?
Je ne sous-entends rien, je pose juste une question.
Non, les marches s'élèvent au fil des jours, c'est normal, hein, c'est un tableau de tournoi.
Et Nadal, ça vaut quoi? Nadal, ça vaut quoi? Ça a l'air exceptionnel, vraiment, ça a l'air exceptionnel.
Ouais.
C'est monstrueux. Sache que ce mec-là, il y a un an, il faisait des qualifs dans les Challengers. Donc c'est une ascension fulgurante. Et ce qui est dingue, c'est quand tu regardes les matchs, tu regardes son box, tu sais, tous les joueurs, ils ont 3-4 mecs. Oui. Il n'y a que son papa. Il n'y a que son papa qui est avec lui. C'est une réussite personnelle. Ouais,
ça va s'étoffer.
Je ne suis pas sûr, parce que le père, il n'a pas l'air facile. Hein.
Un dernier mot peut-être aussi sur ce tournoi, ce Masters 1000 à Montréal avec toi, Eric. On parlait des deux Arthur. En revanche, c'est terminé pour Arthur Rinderknecht.
Ah, c'est ballot parce qu'il est passé à deux points du match et il fait un très mauvais jeu de service à 5 partout au troisième et donc il se fait harakiri. Et donc derrière, c'est Nakashima qui s'est qualifié et ça peut être un potentiel adversaire de... Allez, disons-le, d'Arthur Fils en demi-finale.
On va croiser les doigts, effectivement. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été
merci
avec nous.
Merci, Eric, ça va mieux aujourd'hui.
T'as vu, il t'a repris le sourire.
Moi aussi, ça va mieux.
Merci, Eric. Allez, on continue. Pauline Ferrand-Prévot qui abandonne le Tour de France avant le départ de l'avant-dernière étape hier. On s'en fout pas. Sarah.
On s'en fout pas, on en a parlé hier et on se demandait effectivement s'il y avait des explications à cette baisse de forme. Je pense qu'on a quelques réponses.
Fred.
On s'en fout pas.
David.
On s'en fout pas.
Ouais. La Visma Lease the Bike, son équipe a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux hier annonçant malheureusement Pauline ne se sentait pas bien ce matin. Après consultation avec l'équipe médicale, il a été décidé qu'elle ne débuterait pas cette étape. Pour rappel, elle avait terminé l'étape du Ventoux la veille avec plus de 10 minutes de retard sur la vainqueur. David, c'est quoi, tu penses, une petite déférence le matin et puis on se dit on est trop largué au classement général pour continuer la fin de ce tour?
Non, mais je pense que c'est une athlète extrêmement précise dans ses préparations et qu'elle sait que depuis quelques journées qu'elle n'est pas dans le coup. Et pourquoi continuer, pourquoi accentuer, pourquoi aggraver la situation si elle a un problème physique dans ce cas-là. Et quand tu prends 10 minutes dans le tour, tout le monde sait que c'est terminé, quoi. Voilà, c'est fini. Fin du bal. On plie les Gaules. Donc, si c'est juste pour faire de la figuration et
elle ne peut pas se permettre ça dans le sens de sa communication aussi depuis le départ. Alors, a priori, là, elle serait malade. Elle aurait été malade, évidemment, hier avant le début.
Oui, mais Marie-Azé nous avait dit qu'elle sentait quelque chose déjà, qu'elle avait l'air malade, qu'elle avait l'air moins bien, qu'elle avait l'air moins.
C'est donc pour ça que je disais, la communication de Pauline Ferrand-Prévot, c'était oui, je suis pas au niveau, mais je veux continuer de prendre du plaisir, notamment avec mes coéquipières, etc. Et là, tu les laisses tomber à deux étapes de la fin aussi. Tu vois.
Peut-être non, elle les laisse pas tomber, elle est raisonnable avec elle-même, c'est tout.
Et je pense qu'au contraire, ça libère peut-être ses coéquipières, parce qu'elle n'avait plus rien à jouer, donc justement, ça libère peut-être ses coéquipières.
Elles étaient au service de Pauline Ferrand-Prévot, donc peut-être que. Enfin, il reste qu'une étape, hein.
Il en restait deux quand elle a.
Oui, il restait les deux. Exactement. Effectivement, il en restait deux.
Eh bien, écoutez, on zappe. On verra la dernière étape, en tout cas, du jour qui sera à suivre dans l'intégral tour.
Qui sera folle.
À 17h, étape très ramassée, 99 km seulement, ce sera à suivre dans l'intégral tour actuel.
10 secondes entre la première et la deuxième.
8, précisément, 8. Tu vois. 8 secondes.
Elle s'est endormie 2 secondes et c'était fini.
On va parler évidemment de ce Tour de France fan tout au long de la matinée dans les grandes gueules du sport. Victor Wembanyama qui lance la deuxième édition de son Hoop Gambit, tournoi mêlant basket et échec ce week-end en Ile-de-France. On s'en fout, on s'en fout pas. David.
Moi j'aime bien, moi je m'en fous pas.
Sarah.
Génial.
Fred.
C'est vraiment parce que je suis corporate.
C'est vrai, sinon tu t'en fous. Alors, je vous pose.
Sinon, tu t'en fous?
Non, mais c'est un joke.
Attendez, je vous pose le contexte. La star du basket français présente ce week-end en France et notamment aujourd'hui à Nanterre dans sa ville pour lancer la deuxième édition de ce tournoi atypique. L'année dernière, on se souvient qu'il avait notamment défié Rudy Gobert aux échecs. C'est un tournoi qui attire toujours énormément de monde, évidemment, et qui mixe tournoi d'échecs, tournoi de basket pour permettre notamment Fred à des jeunes basketteurs aussi de venir se frotter. Pourquoi ça n'a pas grand intérêt?
Non, c'est pas que ça a pas grand intérêt et je trouve ça hyper intéressant pour la jeunesse parce que l'exemple qu'il donne, c'est on peut être sportif et on peut faire des activités qui sont autre chose. Donc on peut s'intéresser aux échecs, on peut s'intéresser à la lecture. Et de ce fait, je trouve ça juste fantastique parce que c'est vraiment le personnage qui peut t'aider à ça parce qu'il est intelligent, il est gentil, il parle bien, il est très bon basketteur et je suis très content de ça. Mais c'est vrai que pour un néophyte, ça peut ne pas l'intéresser parce qu'il y a quand même du basket dans ça, parce que l'image de je fais du storytelling, ça me dérange toujours un petit peu parfois. Mais dans l'absolu, j'aime. C'est le storytelling qui me dérange. Oui, je suis un joueur d'échecs. Oui, enfin, t'es pas le seul à jouer aux échecs. Je me pose la question entre les deux. Mais une nouvelle fois, qu'on montre à des jeunes que il y a plein de choses qu'on puisse faire, du sport, des activités
des
du type cérébral de ce type-là, de lire, etc. je trouve que c'est un exemple.
Je sens Fred désabusé.
Non mais Fred, ça fait des décennies que tout dans les bras, rien dans la tête. Il y en a ras-le-bol. Mmh. Tu as vécu ça, j'ai vécu ça, Sarah aussi. Tous les sportifs dignes de ce nom, peut-être un peu moins maintenant avec les nouvelles générations. Nous, on a vécu ça.
Bah nous, c'était
insupportable.
Vrai,
tu sais...
Non mais
bah, tu parles pour toi. Bah, oui, mais en tout cas, c'était insupportable.
C'était insupportable.
Le fait que là, le gars dise, voilà, on peut très bien cogiter, on peut très bien. Tu sais, on l'a toujours dit, mais nous, on n'est pas crédible parce qu'on l'a été. Mais franchement, pour être un athlète de haut niveau, si t'es con, tu n'y arrives pas, quoi. Il faut être intelligent. Il faut justement être un stratège. Il faut réfléchir. Il faut avoir du recul. Il faut mettre en place des
mais je suis d'accord avec toi. Et l'ouverture d'esprit, voilà. Avoir une ouverture d'esprit aussi, etc. C'est juste que.
C'est bien moi, de le montrer.
Ce storytelling. C'est le storytelling qui me dérange un tout petit peu plus.
Mais
réellement, je suis ravi qu'on puisse, encore une fois, se rendre compte qu'on peut être sportif, s'intéresser à plein de choses, avoir une ouverture d'esprit et surtout. Inspirer des jeunes pour
c'est
bon
exactement
sens.
Moi, ça. Aujourd'hui, ça les champions, par une communication qui est démultipliée avec les nouveaux outils, ce sont des gens qui sont inspirants aujourd'hui, pardon,
ouais,
dans la vie de tous les jours. Qui t'inspire?
Alors, à part toi, ça aura peu.
Ben, oui,
ben,
alors.
Tu vois, Fred.
Mais ah, si, ces gens-là sont au-delà d'être des exemples, ils deviennent inspirants. Et quand tu as ce
ça
genre d'initiative, oui, et ben, elles sont packagées, évidemment, elles sont marketées, il y a de la com. Mais derrière ça, moi, je trouve que les valeurs que portent les sportifs à ce point-là, moi, je trouve que c'est inspirant. Je lisais, sur cette opération, qu'il y a une énorme bibliothèque à Austin et qu'ils ont fait un programme, c'est Read Like Wemby.
Oui, c'est pour ça que j'expliquais
donc,
que.
Lis comme Wemby.
C'est pour ça que j'expliquais que lui, il inspire les jeunes à lire aussi. C'est pour ça que j'ai. Tout à fait.
Et je trouve que de prendre du temps, de prendre de son temps pour faire des choses en dehors de ton sport et de t'investir, moi, c'est chapeau bas. Franchement, c'est chapeau bas. Tout le monde ne le fait
et
pas.
Bien sûr.
Et ce genre d'initiative, moi, je l'ai trouvé ultra.
En fait, vous m'avez mal compris. Hein, que je pense que c'est magnifique, c'est génial. Je dis juste que moi, le storytelling, tout ce qu'il y a autour me dérange.
Oui, mais parce qu'il en faut.
L'événement en lui-même, je trouve magnifique. Le storytelling me dérange un petit peu plus, mais c'est tout, c'est juste parce que je suis plus un puriste, mais je suis ravi encore une fois que nos sportifs inspirent et surtout inspirent des bonnes ondes de ce type-là.
Ça ouvre une piste, une vraie piste. Moi personnellement, j'adorerais que les joueurs d'échecs participent aux Jeux Olympiques. Tu vois, ça c'est une vraie question. Parce que ce sont des compétiteurs, parce que c'est dur, parce que c'est compliqué,
les sports de l'esprit.
Exactement, ce sont des athlètes de haut niveau.
Il y a déjà l'échec boxe. Moi, si vous voulez,
c'est vrai qu'il y a l'échec
boxe.
Non, mais sincèrement, c'est un vrai sujet. Est-ce que les jeux d'échecs,
les sports de l'esprit,
les sports de l'esprit auraient leur place au jeu? Pour moi, oui.
David, il y a une petite question pour toi. WhatsApp d'RMC, il y a Mika qui nous demande, est-ce que tu ferais un tournoi cuisine judo?
Ah oui. Ça je suis sûre.
Ah oui, dès demain, évidemment.
Tu peux lancer
et Fred
ça.
Serait voilà.
Fred serait là. Alors, pas pour le judo.
On zappe rapidement.
Je pense que
Sarah
aussi d'ailleurs.
Oui, évidemment. J'ai testé pas mal de tiers 7.
On zappe rapidement parce qu'il y a une petite info cette semaine. C'est Novak Djokovic qui veut révolutionner le tennis mondial en passant à des sets de 4 jeux. On s'en fout ou on s'en fout pas, Fred?
Je m'en fous pas.
David?
Ah, c'est intéressant, on s'en fout pas.
Sarah?
On s'en fout pas.
Alors, un but principal, évidemment, c'est de rendre les matchs un peu moins long. Il propose de conserver le format de 5-7, mais donc avec 4 jeux gagnants. Il voudrait aussi retirer le système d'avantage dans le comptage de points. Une proposition qui vient aussi à redonner évidemment de l'intérêt au tennis mondial. On en parlait justement hier, Sarah, et c'est déjà fait d'ailleurs par l'ATP dans le tournoi Next Gen qui réunit les meilleurs jeunes de moins de 22 ans.
Oui, avec
ça semble plausible, Sarah, ou là on est vraiment dans une révolution complète de ce qu'est le tennis aujourd'hui.
Ce sera une révolution. En tout cas, il y a des réflexions depuis quelques années, parce que les matchs sont relativement longs, surtout les matchs en 5-7, c'est-à-dire que t'as des moments de creux, en fait. Et ces matchs longs, c'est difficile pour le téléspectateur, c'est difficile pour le spectateur. Pardon, mais moi, j'ai du mal à rester 5 heures assise et à regarder un match du bout jusqu'à la fin.
Oui, mais la dramaturgie d'un 5e set, tu peux pas le reproduire.
Mais tu gardes le système de 5-7.
T'as raison, en fait, on fait un match long pour arriver à cette dramaturgie. Ouais, mais avant, avant tout ça, t'as un ventre mou des deux troisième sets. Mais effectivement, pour arriver à un cinquième set avec un scénario juste incroyable, il faut ces sets d'avance. C'est pour ça que c'est compliqué. Et puis il y a aussi la longueur des matchs. C'est pour ça qu'on essaye de faire des super tie-break, d'enlever les avantages parce qu'il y a beaucoup de temps mort. J'ai du mal à me prononcer.
C'est peut-être une bonne idée, mais ça paraît compliqué.
Mais effectivement, trop changer. Donc je sais pas trop.
Ça changerait, mais c'est quand même Novak Djokovic.
Oui, mais c'est parce qu'il est âgé et qu'il veut encore continuer. C'est pour ça que lui,
c'est ce
que
c'est ce que Fonseca d'ailleurs lui a dit. Hein. C'est ce que Fonseca lui a répondu.
Il veut continuer à jouer, mais que ça devient trop long pour lui.
Allez, 9h58. Les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants avec le ring des GG. On parlera JO à 2 ans des Jeux de Los Angeles. Les résultats sont-ils la chose la plus importante pour les athlètes? Sans oublier le dossier, Léon Marchand prend-il un risque en participant au championnat d'Europe de natation qui démarre demain? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.